Europe 1.
Christine Détré, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeure de sociologie à l'École normale supérieure de Lyon et chercheuse au centre Max Weber. Et vous publiez Crush aux éditions Flammarion. C'est sur le nouveau discours amoureux tel que le pratique la jeune génération. C'est quoi un crush ? Et pourquoi ce mot vous a-t-il obsédé pendant des années ?
Alors, c'est quoi un crush ? Bon, je pense que au terme de la plusieurs centaines de pages du livre, je pense que je n'arrive pas à une définition précise de l'objet, c'est dire la complexité, et c'est peut-être ça qui m'a justement obsédée pendant plusieurs années. En fait, si on essaye de trouver une définition rapide pour commencer, on pourrait dire que c'est une attirance passagère qui a vocation à rester secrète, en fait. Et c'est ça qui, au début, m'a interrogée parce que moi, j'ai découvert le mot dans un atelier de recherche que je faisais avec mes étudiantes. Et je n'avais jamais entendu ce mot, alors que j'ai pas l'impression d'être complètement non plus déconnectée de la jeunesse d'aujourd'hui. Et mon interrogation, ça a été de me dire, est-ce que c'est un mot que je ne connais pas parce que c'est un mot qui fait partie du langage des jeunes et puis que chaque génération a son propre langage et c'est ce qui fait qu'on est jeune finalement? Ou est-ce que ce mot, je ne le connais pas parce que ça désigne une émotion, une façon d'être entre les jeunes, entre les ados, que moi, je ne connaissais pas quand j'avais leur âge.
On peut penser que le crush, c'est comme le flirt pour la génération précédente, hein, un mot qui était beaucoup plus usité également, mais en fait non, c'est un peu différent le crush.
Oui, alors je pense que si on essayait de le rapprocher de quelque chose qu'on connaîtrait, ça serait plutôt béguin que flirt en fait. Parce que flirt, donc il y a une historienne, hein, Fabienne Castarosa, qui a fait toute une histoire du flirt qui retrace bien l'évolution du terme et des pratiques que le même mot recouvre tout au cours du 19e jusqu'aux années 60. Et elle montre quand même le flirt que c'est l'histoire d'un rapprochement des corps. Et que quand on flirte, a priori l'autre personne est quand même un peu au courant et quand même le but c'est qu'il se passe quelque chose. Alors que crush, et peut-être du coup c'est pour ça que je disais la parenté elle serait plutôt avec béguin, la personne pour qui on est en crush, donc le ou la crush, peut passer des mois, des semaines, des mois, voire des années dans les cas extrêmes, sans jamais savoir en fait qu'on éprouve cette attirance pour cette personne-là. Donc pour moi, c'est vraiment pas comparable à flirt, mais on pourrait plutôt le rapprocher à béguin, sauf que béguin, c'est pas du tout un mot que la génération d'aujourd'hui utilise, et c'est pas non plus un mot qu'on utilisait dans la génération précédente avec la même ampleur que eux utilisent le terme crush.
Christine Détré, est-ce que le rapport des jeunes générations à l'amour et à la sexualité a autant changé qu'on le dit ou qu'on le croit ?
Oui et non, en fait. C'est ça le problème avec les sociologues, hein, c'est qu'ils ont toujours des réponses nuancées et en disant bah oui, ça a changé, mais ça n'a pas changé et tout change pour que rien ne change, hein, quelque part. Alors oui, parce que... alors ça dépend aussi par rapport à quelle période on compare, mais si je compare alors avec cette fameuse période que couvre l'histoire du flirt, il y a bien évidemment la contraception qui a bouleversé le rapport à l'amour, à la sexualité, bien évidemment par rapport à la génération précédente. Mais ça a changé aussi beaucoup plus récemment et dans le rapport justement à ce rapprochement des corps dont je parlais, c'est par exemple des jeunes gens que j'ai interrogés dans le livre et qui disent mais finalement avec les applications de rencontre, c'est hyper facile quoi d'avoir une relation sexuelle, de passer la nuit avec quelqu'un, ils disent même avoir du sexe, faire du sexe avec quelqu'un et c'est vraiment intéressant hein, de dire faire du sexe à la place de faire l'amour ou des expressions qu'on pouvait utiliser et il y a ce qui apparaît et ce qui a été montré dans d'autres études hein, assez récentes, c'est qu'il y a une forme de lassitude, d'ennui. Par rapport à cette facilité supposée, hein, bien, enfin peut-être, des applications de rencontres à concrétiser une relation. Alors ça change, ça évolue bien évidemment. Ce qui ne change pas, quand je disais tout change pour que rien ne change, c'est bien évidemment les charges genrées, les socialisations genrées différenciées à l'amour ou au sentiment. Et alors quand je dis socialisation différenciée, c'est là aussi c'est une expression de sociologue. En fait, on entend par là l'idée que les petites filles et les petits garçons, puis les jeunes filles et les jeunes hommes, les hommes et les femmes, ne sont pas du tout éduqués ni à l'expression des sentiments, ni peut-être à leur ressenti de façon égalitaire. Et ça, ça ne change pas. Avec le crush, on voit que ça ne change pas.
Vous dites de façon égalitaire, mais c'est peut-être tout simplement qu'ils ne ressentent pas les choses de la même façon, ils ne les voient pas de la même manière. Au fond, il y aurait une importance accordée à l'amour, au couple, chez les femmes, qui serait moindre chez les hommes. C'est un peu ce qu'on nous dit toujours, non ?
Oui, mais alors justement, c'est pas parce qu'on le dit toujours que c'est naturel, et c'est pas parce qu'on le dit toujours que c'est universel, mais... Avec notre grille d'analyse, c'est parce qu'on le dit toujours que c'est social. En fait, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'on fait un livre dessus et qu'on passe des années et que je fais des heures et des heures de cours dessus depuis des années. Et donc, c'est réfléchir à, effectivement, dans l'éducation. Et donc, éducation, c'est vraiment au sens large. Hein. Ça va de quels jouets on achète, quels habits on achète à des enfants, à quels moqueries on va faire. Alors, moqueries qui peuvent être gentilles, hein, mais par exemple, quand un petit garçon va être avec une petite fille, dira ah, bah alors c'est ton amoureuse. Et comment, dans une cour de récréation, par exemple, pour un petit garçon, est-ce que c'est valorisé, dissible, légitime d'avoir une petite amoureuse pour qui on va cueillir des pâquerettes plutôt que de vouloir faire du foot? Donc, à chaque fois, nous, c'est de travailler en disant voilà, ce qui paraît ancré, est-ce que c'est si naturel ou est-ce que c'est social? Et l'autre question, on pourrait se dire, mais bon, est-ce que c'est si grave? Est-ce que c'est si grave que ce soit social? Finalement, finalement, chacun a sa place et les gens sont différents et complémentaires, etc. Et en fait, là où moi, ça m'intéresse, c'est de voir quelle coupe psychique ça va causer aux filles et aux garçons. Voilà, parce que les garçons, bien évidemment, peut-être que si c'était plus simple pour eux de parler de leurs émotions, de parler de leurs sentiments, ça serait peut-être aussi plus facile et plus harmonieux pour tout le monde.
On fait une pause, Christine Détré, on se retrouve tout de suite après.
9h, 10h,
c'est arrivé demain sur Europe 1.
Christine Détré est sociologue. Elle vient de publier Crush aux éditions Flammarion. C'est sur le nouveau discours amoureux de la jeune génération. Alors, vous l'avez dit, hein, les réseaux sociaux et les applications de rencontres ont changé beaucoup de choses, ont peut-être renvoyé les bonnes vieilles boom où l'on dansait des slows à l'âge de pierre. Alors, est-ce que le crush est lié à la connexion Internet comme le flirt était lié au boom ?
Ah oui, alors ça, c'est le parallèle est vraiment très 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 judicieux. Alors effectivement, le flirt, il était lié au boom. Donc voilà, on ne peut que penser à Sophie Marceau, mais il était lié aussi dans les années 60 aux chansons yéyé, par exemple. Alors voilà, par exemple Françoise Hardy qui chantait que tous les garçons et les filles de son âge, etc. Et quand on écoute ces chansons, on voit comment on avait une grammaire du flirt. Tout à l'heure, je parlais de socialisation, d'éducation, mais une grammaire du flirt qui, comme ça, était enseignée, en fait, comment on apprenait ce que devait être le flirt. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est pour ça que moi, je prends le crush comme le flirt, comme des pratiques culturelles et comme des pratiques culturelles des jeunes. Le crush, il est complètement articulé aux réseaux sociaux et notamment à Instagram. Et donc, c'est le fait, effectivement, quand on a un crush sur quelqu'un, de passer des heures et des heures et des heures, alors non plus à danser des slows, mais à aller ce qu'ils appellent stalker, c'est-à-dire aller fouiller, les enquêter, espionner les profils du ou de la crush pour essayer en fait de savoir le plus de choses sur cette personne-là. Donc, qui sont ses amis? Est-ce que apparemment elle aurait ou il aurait un petit copain, une petite copine? Quels sont ses goûts? Quels sont les chanteurs, les chanteuses, les groupes qui sont postés, les films, etc. pour essayer ainsi de connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Et MeToo, Christine Détré, ça fait un moment maintenant. Qu'est-ce que ça a changé pour la nouvelle génération ?
Une façon de penser ces relations amoureuses pour les jeunes hommes et jeunes femmes que j'ai interrogées. Alors, il faudrait poursuivre, parce que moi, mon enquête n'était pas sur l'effet MeToo. Mais ce dont je me suis rendu compte, en revanche, c'est que On se retrouve, notamment chez les jeunes femmes, avec une forme de socialisation contradictoire qu'on pourrait résumer en une phrase très simple qui est « elles ont le cœur romantique et elles ont la tête féministe », en fait. Et du coup, ça leur crée des tensions et des interrogations. Parce que, en même temps, elles sont prises, bien évidemment, dans ce que je disais, voilà, cette socialisation genrée à l'amour, à la romance. Quand on est une fille, on doit être attirée par ces choses-là et on passe des heures et des heures à en parler avec ses copines et c'est le centre de notre monde, etc. Et en même temps, parce que il y a MeToo, parce qu'il y a aussi tous les best-sellers féministes, les podcasts féministes, les pages Instagram féministes, elles ont un recul et une réflexivité là-dessus. Mais c'est pas parce que on a la réflexivité avec le cerveau qu'on arrive à déraciner en fait des imaginaires et vous voyez des imaginaires, des modes de pensée qui sont ancrés depuis des générations. Donc moi je l'ai vraiment vu. Il y aurait bien évidemment d'autres effets hein, qu'on pourrait mesurer. Puis ça a aussi un rôle bien évidemment chez les jeunes hommes hein, qui sont un peu plus conscients. Alors pour certains, hein, encore une fois, il faut pas généraliser et il faut affiner à chaque fois selon les milieux sociaux, etc. Mais ça a cet effet très fort de réflexivité dont on ne sait parfois que faire dans ce qu'on ressent au plus profond de soi.
Christine Détraie, vous dites que les émotions ne peuvent plus être appréhendées de façon isolée. Elles sont constamment appuyées maintenant par les avis, les jugements, les commentaires des autres.
Elles l'ont toujours été. Il y a une sociologue américaine qui s'appelle Harley Oshield qui parle de travail émotionnel. Et elle a une métaphore qui est très forte, en fait. Elle dit les émotions, c'est comme un langage. Et comme de la même façon qu'un enfant va apprendre la langue, en fait, dans laquelle il ou elle est né, de la même façon, on apprend non seulement à exprimer les émotions de la façon qu'il faut le faire, mais aussi à les ressentir. Et l'exemple tout bête qu'elle donne, c'est un enterrement. Elle dit, un enterrement, à la limite, un enfant de 2-3 ans qui rigole à un enterrement, on va laisser passer. Mais très vite, on va lui apprendre que non, à un enterrement, il faut montrer qu'on est triste. Et non seulement il faut le montrer, mais il faut le ressentir aussi. Et tout ça, c'est bien parce que les autres, enfin voilà, les grands, les grandes sœurs, les parents vont dire, à un enterrement, on doit être triste et tu dois être triste et tu ne dois pas rigoler. Donc c'est vraiment cette idée que oui, les émotions, ce sont des objets sociaux en fait, des objets sociaux et des objets historiques. On ressent jamais tout seul en fait.
Et on était influencé jadis par les romans, hein, dès le XVIIIe siècle. Il y a des femmes qui écrivent des romans sentimentaux, et on apprend au fond à être amoureux, j'imagine, comme on a pu apprendre à être amoureux au XXe siècle en allant au cinéma, sans doute.
Oui, tout à fait. Et c'est bien un de nos drames, en fait, moi je pense, c'est qu'on a appris aussi une certaine forme d'amour avec des romans qui décrivent un amour qui doit être passionné, passionnel et qui très souvent est toxique en fait. Et on voit comment justement toutes ces jeunes femmes d'aujourd'hui et puis toutes ces productions aussi bien écrites ou bien sur les réseaux sociaux remettent en cause cette idée. Enfin, un des romans classiques où on dit c'est un magnifique roman d'amour, c'est Léo de Hurlevent. Quand on lit Léo d'Hurlevent, c'est juste horrible. Enfin, faut quand même se souvenir que la première chose qu'il fait, c'est tuer le petit chien de la jeune fille dont il est supposément amoureux. Donc, comme idéal d'amour, il y a quand même mieux. Et effectivement, on a été, et quand je dis on, c'est aussi bien les garçons et les filles, hein, on a été nourris, élevés, mais par aussi toutes les séries, Gossip Girl et compagnie, hein, c'est vraiment un stéréotype amoureux, on pourrait dire imaginaire, qui traverse qui traverse la culture, cette idée que s'il est hyper jaloux, s'il me dit que j'ai pas le droit d'aller voir mes amis, que je dois pas m'habiller comme ça quand je sors, non mais c'est qu'il me prouve que vraiment il m'aime. Bon, voilà, tout ça c'est effectivement, ça fait rire, et puis en même temps c'est quand même assez terrible sur les effets très concrets que ça peut avoir.
Merci Christine Détraie. Crush, votre livre vient de paraître aux éditions Flammarion.
Merci beaucoup.
Et on fait une pause avant de retrouver un grand historien, c'est Colin Jones qui publie La chute de Robespierre, 24 heures dans le Paris révolutionnaire.
Europe 1.
Et puis il y a Culture Média, ne pas oublier l'émission de référence sur les médias du lundi au vendredi de 9h30 à 11h. Thomas Hill et ses chroniqueurs font le tour de l'actualité médiatique et culturelle avec leurs invités. Culture Média, c'est donc demain à 9h30 sur Europe 1.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.